Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. On n'a pas les moyens d'arrêter la guerre. Les guerres. Alors, pour une fois, on va essayer de parler d'autre chose. Et je vous propose un conte-histoire. Et j'appellerai ça, pour cette fois-ci, traction avant, jeux interdits et pédagogie au siècle dernier. Toute la fratrie avait pris l'habitude de rentrer de l'école en passant par le village des futurs beaux-parents d'Yvonne. Gisèle venait d'avoir 5 ans. Elle avait passé la journée chez la mère du fiancé, généreuse paysanne qui lui faisait des crêpes et racontait des histoires de bêtes et de forêts. Profitant de la visite des enfants, elle envoyait ce jour-là à la mère de sa future bru une belle lapine, pleine comme on dit, promesse d'un élevage conséquent. Gisèle, Françoise et Yvonne, accompagnées de son promis, s'en revenaient donc à pied par la grande route, en poussant leur vélo pour rallonger le plaisir d'être ensemble. Philippe, 9 ans, goûtant peu aux histoires d'amour et de filles, venait de faire une échappée sur son petit bolide. Le soir tombait doucement. Au bout de la route, on voyait la charrette du père Louis avec son âne. Une grosse traction avant noire dépassa le petit groupe à vive allure. On entendit un crissement aigu, très fort, un bruit pas naturel, dont on n'avait pas l'habitude à la campagne. Et Gisèle vit dans un éclair le vélo de Philippe sauter en l'air. Tout le groupe se mit à courir, sauf Gisèle, à qui on avait refilé le grand sac avec la lapine. Comment courir, à 5 ans, entraînant une lapine de plusieurs kilos, qu'il n'était pas question d'abandonner? On lui avait fait confiance. Grâce à la lapine, Gisèle ne vit pas ce qui était arrivé ce 14 mars 1950 sur la route de Saint-Germain. Ou du moins, elle ne me l'a pas raconté. Elle essayait bien d'avancer, mais le sac si lourd battait ses petites jambes. Elle ne saurait pas ce qui se passait là-bas, à 200 mètres. Il faisait sombre maintenant. On ne voyait que les feux de la grosse Citroën arrêtée et des ombres autour. Gisèle ne revit jamais Philippe, sinon sur la photo en vert de la tombe, quand on allait voir le petit frère. Gisèle ne comprenait pas comment Philippe pouvait être au ciel, sur les nuages qu'elle scrutait longtemps, jusqu'à ce qu'il s'effiloche. Et pourquoi on avait si souvent rendez-vous au petit jardin du cimetière, où il n'y avait que cette photo de son frère, riant dans son pull vert à rayures multicolores, tricoté par Yvonne et leur mère pendant la guerre, avec des restes d'autres pulls détricotés. Plus de vélo, plus d'éclats de rire, plus de cache-cache ni de gros mots. La maison si animée s'endormit dans le silence. Elle fut vendue bientôt. Il était impossible de rester dans cette maison dont les fenêtres s'ouvraient sur le lieu de l'accident, en bas du chemin. Yvonne, Françoise et leur mère préparaient le mariage, que l'on ne repoussa pas. Les voisins disaient que ce mariage sauverait toute la famille. Gisèle ne participait pas aux préparatifs et elle se rendit compte à quel point elle était petite et seule et sans importance. Elle chercha les derniers jouets de Philippe qu'on avait fait disparaître pour éviter qu'ils sautent à la figure de chacun. Vélo, train électrique, lance-pierre et même le cheval à bascule, marqué par les chevauchées de toute la tribu. Tout fut condamné, dans un coin inaccessible du grenier. Gisèle ne sauva de la tempête que la petite flûte de pan que Fifi avait bricolée avec des branchettes de sureau. Le déménagement en ville occupa tout le monde et fit espérer une vie différente. Les parents supportaient, au contraire, de plus en plus mal les enfants. On mit Gisèle à l'école maternelle, en ce milieu d'année scolaire où elle fut la nouvelle, mal accueillie par les petits groupes déjà solidement formés. Et son père oubliait d'aller la chercher le soir, tandis que sa mère s'assommait de tranquillisants. Elle fit connaissance avec la vieille Madame Cambéret, qui balayait les classes jusqu'à 18 heures, et qui connaissait, comme toute la petite ville, le malheur de cette famille. Et Madame Cambéret restait toujours avec Gisèle, en attendant que Pierre, hébété de chagrin, s'aperçoive qu'il avait encore une enfant qui l'attendait. Alors il quittait enfin son atelier, où, avant que l'industrie ne s'en mêle, il faisait déjà de l'électronique. Sa dévorante passion. Rose fut très bien accueillie dans ce quartier un peu excentré. Dans cette rue Racine, il y avait des gens de tous les âges et plusieurs familles avec des enfants. Alain, 8 ans, était le fils du boulanger. Guitou, 4 ans, avait un grand frère qui tenta de faire la conversation avec Françoise, sans grand succès. Mais Ginette, la belle voisine d'en face, avait un petit garçon qui s'appelait Philippe. Il n'avait que 4 ans à peine et se présentait comme Pili, diminutif immédiatement homologué par toute la famille. Pas de fille à l'horizon. Mais l'empreinte laissée par son frère poussait Gisèle à rechercher l'espièglerie et ce qu'on n'appelait pas encore le machisme, protecteur à cette époque, chez ces galopins qui entouraient beaucoup cette petite fille solitaire débarquée dans leur domaine. Leur domaine, c'était le chantier, aire de stockage des grumes et bois de construction du marchand de bois et charbon local, juste en face de la nouvelle maison, à côté de celle de Ginette. Et Gisèle pouvait jouer dans le chantier, sous la surveillance de cette jeune femme fantasque et de Rose qui voyait tout de ses fenêtres à l'étage au-dessus de l'atelier de son mari. Le chantier. Cache-cache et balançoire improvisée, en mettant des planches en travers d'un tronc ou d'une poutre. Et quelques années plus tard, bois fumant, petites branches sèches que les garçons allumaient d'un geste mâle en puisant dans une grosse boîte d'allumettes ménagères détournée subrepticement. Jamais aucun accident dans le chantier, où un ou deux camions hors d'usage faisaient des cabanes idéales, ou même un site d'entraînement pour les 24 heures du Mans, profondément enraciné dans la boue et les herbes folles. Premier amour de Gisèle, rêvé à 8 ans. Philippe, bien sûr. Philippe le maire, dont les photos découpées dans Cinémonde tapissaient le cahier de cinéma de Françoise. Mais cette passion fut sans espoir, puisque ce Philippe-là était déjà marié avec Juliette Gréco. Avant encore, Jeannot l'avait fait rêver. Lui, qu'au mariage d'Yvonne, on avait donné comme cavalier à Françoise, 11 ans, tandis qu'elle s'était trouvée à parier à Robert, plus jeune qu'elle.
N'importe quoi.
Puis en colonie de vacances était apparue Marthe. Marthe, blondinette bouclée, comme un petit mouton, silencieuse et douce, qui ne quitta pas, ou presque, Gisèle pendant un mois de château de sable et de cachette dans les dunes. Mais on n'avait pas retrouvé l'adresse de Marthe dans la valise du retour. Et Gisèle la regretta toute sa vie. À l'école commença le harcèlement, sport collectif très ancien. Gisèle, dont les parents étaient l'un et l'autre émigrés, portait un nom imprononçable à l'école primaire et que ses ennemis avaient transformé en guêpe. Elle devint donc la guêpe, ce qui faisait les bruyantes réjouissances des récréations, surtout quand, après un ballon reçu en pleine tête, les lunettes de la guêpe se retrouvaient réparées au fil de fer. Quelques institutrices républicaines rectifièrent la trajectoire douloureuse en trouvant des qualités à l'hyménoptère malmené. Des notes glorieuses s'accumulaient, peut-être un peu gonflées à l'hélium, allez savoir. Et rapidement, les ennemis de la veille devinrent des compagnes aimables et assidues, pourvu que les exercices de grammaire ou de calcul de la guêpe restassent lisibles, depuis les places de droite, de gauche, ou même depuis la table de derrière. Gisèle laissait faire, se prêtant même au jeu, pour avoir des amis, sans avoir d'illusions. Le système, bien au point, fonctionnait jusqu'en cinquième. Là, une des groupies empruntait carrément le cahier pendant l'intermède de midi, au prétexte qu'elle n'avait pas le temps de noter les corrections en classe et craignait des orages en cas de contrôle mensuel. Gisèle accepta. Jusqu'au jour où forcément Jacqueline, la riche groupie qui changeait de manteau tous les hivers, quand Gisèle usait jusqu'à la trame ceux de ses sœurs aînées, Jacqueline, donc, ne revint pas en classe l'après-midi, laissant Gisèle sans cahier ni exercice à présenter. Madame Cantarelle, la prof de français, s'étonna beaucoup et ne chercha pas à vérifier les explications compliquées de Gisèle qui manquait complètement d'imagination dans ce domaine. La sanction qui s'imposa fut de faire corriger l'exercice sans filet par Gisèle, qui s'en sortit honorablement. Ainsi prit fin le commerce des commentaires de texte. À 13 ans, à l'occasion d'autres vacances, Frédéric et le petit André réussissaient à amuser Gisèle. Frédéric était arrivé dans ce camp de vacances avec Marianne, sa sœur aînée, une grande qui impressionnait beaucoup Gisèle. Les adresses ne furent pas perdues et quelques cartes postales s'échangèrent entre Frédéric et Gisèle, Marianne ne s'intéressant pas aux petits. Une carte retint l'attention scandalisée des censeurs d'une institution très comme il faut, où le garçon un peu turbulent avait été placé. Frédéric écrivait à sa complice « chère vieille branche » avec quelques autres qualificatifs innocents. Les parents de Gisèle s'en amusèrent par la suite, mais pas ceux de Frédéric, que le censeur de l'internat curatif avait alerté, et qui jugèrent que le mal se faufilait par la poste dans cet établissement au-dessus de tout soupçon. Il convenait donc de prendre d'urgence les mesures appropriées pour protéger leur enfant du démon. Lesquels parents se précipitèrent alors chez Gisèle, preuve à l'appui. Journée mémorable. À la sortie du collège, une longue voiture attendait Gisèle, avec dedans une belle dame, en volumineux manteau de faux vison, très impressionnant. En haut, des cheveux platine, au brushing impeccable. Et en bas, des escarpins blancs, avec les bouts noirs vernis, à la dernière mode. Hollywood tout entier, parachuté dans ce petit patelin montagnard. La dame fonça sur Gisèle, qu'elle obligea à monter dans son palace roulant, après quelques propos agressifs pour faire connaissance. Les parents de Gisèle, épouvantés, trouvèrent sur le champ une solution lourde assez pour calmer la furie hollywoodienne, qui n'hésitait pas à qualifier leur petite de fille pervertie. À l'autre bout du département, une cousine était surveillante dans un collège avec internat. Le père conclut par téléphone l'entrée derrière les barreaux pour la gamine ahurie, qui y passa 6 mois à s'étioler et à perdre tous ses acquis en mathématiques qu'elle aimait tant. Le professeur de là-bas, confondant l'autorité avec la cruauté et ne sachant obtenir le silence qu'à force d'humiliation et de punition injustifiée. Dans cette ville inconnue, Gisèle n'avait personne pour lui permettre des sorties hors de la cour du collège, cernée de murs à tessons de bouteilles. La cousine étudiante était bien trop occupée pour y faire face. Pourtant, un jour, dans le seul cinéma du lieu, passa jeune fille en uniforme, avec la nouvelle étoile montante, Romy Schneider. La cousine offrit donc 2 billets de cinéma à l'exilé, qui n'avait plus qu'à choisir la compagnie qui lui plairait pour ce spectacle unique. Gisèle n'avait pas encore d'amis au collège. Gabi était collante, Christiane gentille, mais avec d'autres préoccupations. Rolande était en 3e, silencieuse et solitaire. Elle n'avait pas pu aider pour les maths, mais cette faiblesse même avait rapproché les 2 pensionnaires. Elles profitèrent donc ensemble du cinéma. Profiter est beaucoup dire, car l'histoire de ces jeunes filles dans un internat rigoureux de la Prusse de Bismarck collait trop à la réalité de l'emprisonnement de Rolande et de Gisèle. Et l'évolution des sentiments entre une jeune femme professeure et l'adolescente interprétée par Romy Schneider parut un message codé à Rolande qui s'effraya de ce qu'elle prit pour une offre sentimentale ou plus. Cette séance de cinéma finit de verrouiller la solitude de Gisèle, dont les résultats atteignirent des abîmes insoupçonnés. L'année scolaire mouvementée semblait compromise. De retour au bercail, l'équilibre se rétablit dans un collège de la ville voisine et une vieille dame pleine d'humour rendit le goût des mathématiques à la rescapée de la bêtise. Par contre, en grammaire, Gisèle se heurta à des règles d'analyse qui la déroutèrent complètement. On lui posait des questions dont elle ne connaissait ni les mots, ni le sens, évidemment. Pourtant, elle avait les meilleurs résultats en orthographe et en composition française. La jeune professeure cessa rapidement de l'interroger, enregistrant seulement les bons résultats de cet égaré de la terminologie grammaticale. Gisèle découvrit plus tard, en lisant Cavanna, que dans les petits établissements scolaires ruraux, des cours complémentaires, de la 6e à la 3e, on parlait de noms, de sujets, de compléments, d'attributs ou d'épithètes, et d'articles, qui s'accordaient avec les noms qu'ils accompagnaient, sans plus de chichi. Tandis qu'au lycée, dans les classes de même niveau, on parlait de déterminants, de groupes verbales, et d'autres circonstanciels, etc. Terminologie aristocratique, inaccessible
au petit gueux des campagnes.
Cette année-là, Gisèle s'aperçut qu'il y avait de bons profs et de mauvais, des adultes sympas et d'autres toxiques, et que la course au statut de grande n'était pas forcément le chemin du bonheur. Elle rêvait des farces de Fifi, des parties de cache-cache, des fraises qu'il mangeait pas mûres derrière la maison, du chat Glousy qui aimait tellement Fifi et Gisèle qu'il avait fait 18 kilomètres à pattes, bien sûr, pour les retrouver, quand Pierre s'en était débarrassé, après avoir un jour trouvé ses petites pièces d'électronique répandues partout sous ses établis. Gisèle, qui entendait encore la flûte de Pan, qu'elle avait vue fabriquer et qu'elle ressortait en cachette quand elle était seule. En allant prendre le bus, après les cours de son nouveau collège, Gisèle se trouva nez à nez avec André, le petit de la colonie de vacances, qui avait pris un paquet de centimètres. André habitait à deux pas du collège de filles, dans un grand appartement où son père, tailleur, avait son atelier. Accueil chaleureux de la famille. André avait sans doute parlé de cette grande bringue qui aurait pu lui manger sur la tête. André allait au lycée technique Jules Ferry, ce qui impressionna beaucoup Gisèle, qui aimait tellement squatter l'atelier de son propre père. Les questions des parents d'André sur la scolarité, la famille, etc., leur confirmèrent que cet enfant sans frère en avait eu un pourtant. La mort de Fifi ayant eu un certain retentissement dans l'agglomération, par le drame lui-même et par le procès qui s'ensuivit. À cette occasion, Gisèle avait découvert ce qu'était un tribunal. Et la voix de sa mère lui était restée dans les oreilles, criant qu'elle ne voulait pas vendre les restes de son fils. Quand l'avocat faisait de son mieux pour obtenir du chauffard à la traction avant les plus forts dommages et intérêts possibles. André avait des frères, mais pas de sœurs. Et Gisèle, cet hiver-là, vint souvent attendre son bus dans l'atelier du tailleur. Elle se sentait bien, Gisèle, dans cet univers de garçons, où la mère secourable d'André lui prêtait un petit frère, préfabriqué. Elle se mit même à y croire, et à parler bientôt aux nouvelles connaissances de son frère, qui habitait en ville pour être plus près du lycée technique. Mais ce conte ne prenait pas vraiment. Françoise aussi s'était trouvé un petit frère. C'était Jean-Louis, dont la mère bavardait parfois avec Rose, rencontrée devant le kiosque à musique au retour du cimetière, sous les platanes du cours Tracy. Aujourd'hui, c'est conte histoire, et on continue si vous voulez. L'apparition hollywoodienne n'avait peut-être pas complètement tort. Gisèle aimait la compagnie des garçons. Mais pas comme le prétendait la tigresse, pas comme le craignaient ses propres parents, traumatisés par la belle platinée. Gisèle découvrit plus tard ce qu'elle appréciait chez les garçons et qui leur valait son estime. C'était tout simplement qu'ils ne la traitaient pas comme ces filles, trop tôt maquillées, trop élégantes et sans doute trop riches. Gisèle était un garçon manqué, et comme personne ne lui disait qu'elle était une fille réussie, ce qui l'intéressait, c'était qu'on la considère comme l'égale des garçons. Gisèle n'avait pas eu de poupée, et n'avait joué qu'avec celle que Françoise avait abandonnée, pour les raccommoder, leur recoller les cheveux, et même avec un grand élastique, leur rendre bras ou jambes souvent arrachés et soigneusement conservés par Rose, qui ne jetait rien, en mère de famille nombreuse, économe, qui avait vu la guerre. Petite, elle avait bien eu un nounours, pour la tendresse, ou les punitions, doudou avant la mode. Un jour, l'institutrice avait demandé à sa classe de CM1 de raconter un souvenir de Noël. Aimant très fort son ours, Gisèle avait noirci avec force pâtée toute une page du cahier mensuel. Elle avait même été précise dans sa description en parlant de l'ours en punch. La maîtresse avait barré le mot insolite en le remplaçant dans la marge par peluche. Gisèle s'était sentie incomprise et seule au monde, victime d'une erreur carrément judiciaire. Elle n'avait pas fait de faute d'orthographe, elle en était sûre. Elle avait essayé d'expliquer que c'était bien un ours en punch, que c'était marqué sur l'étiquette, attaché autour du cou de l'animal, quand elle l'avait reçu. Une marque de jouet portait en effet ce nom, inusité alors, dans cette acception. Le 1er mai, un Bourbonnais, tout le monde au muguet. La terre est bonne dans les forêts de Colbert. Et en revenant de la belle de Troncay, on ramenait toujours des pleines cagettes de muguet que les enfants allaient vendre le dimanche à la sortie des églises et du cinéma. Ce jour de 1961, Pierre organisa la sortie en haranguant toute la maisonnée. Il voulait bien perdre du temps sur son planning, mais refusait de voir les filles allonger les préparatifs en repassage ou devant le miroir. Le ton monta. Gisèle reçut même une taloche, avec l'ordre d'aller au plus vite à la cave chercher des cajots. Elle descendit l'escalier raide et sans lumière, en pleine révolte. Pourquoi cette claque? Elle n'avait rien fait de mal. L'envie de forêt et de muguet s'envola avant d'atteindre la pile des cajots. Gisèle trébucha et se retrouva sur le tas de charbon en hurlant. Elle se tordit, pleura, hoqueta, appela à l'aide. Et Pierre descendit lui aussi dans la cave, à peine éclairée par une ampoule habillée de toile d'araignée et de suie. « j'ai mal, j'ai trop mal !» gémissait la malheureuse sur son tas de charbon. « T'es tombée? Tu t'es cassé quelque chose ?»«
J'ai mal au ventre !»«
Tu n'es pas indisposée ?» demanda Françoise, descendue elle aussi aux nouvelles.
« Mais non, c'était la semaine dernière !»
protesta la victime.
« C'est là » indiqua-t-elle en désignant le bas de son ventre côté droit.
« Bon, tu vas pas rester là !» dit Pierre, qui regrettait amèrement sa taloche.
Gisèle tenta de se lever, aidée de Françoise, mais poussa un cri déchirant. Pierre attrape sa fille comme un bébé, sur ses grands bras musclés, telle Scarlett O'Hara vue au cinéma le mois dernier. La montée de l'escalier étroit est un peu hasardeuse, mais la douzaine de marches est bientôt vaincue. On allonge Gisèle sur un divan et on se jette sur l'annuaire téléphonique, ce 1er mai. L'agglomération fait presque 50 000 habitants. Il doit bien y avoir un médecin qui ne soit pas au muguet. Personne. Personne. Pierre appelle les pompiers, qui ont une bonne idée. Il y a le vieux docteur Giraudoux sur la route de Vichy. Il est retraité depuis longtemps, mais un médecin reste médecin. Pierre fonce et ramène le vieux Giraudoux, qui certes ne court pas vite, mais semble ravi d'être encore quelqu'un, et pas seulement le frère de l'autre. Sa sacoche est encore prête à l'emploi et le stéthoscope en parfait état.
Tu n'as pas de fièvre, on dirait.
Ça t'arrive souvent, ce genre de choses?
Comme ça, non. Mais ça me tire de ce côté depuis un moment.
Depuis combien de temps?
Un mois ou un peu plus, peut-être.
Des tiraillements, comment?
Comme une courbature.
À quel moment?
Quand je me lève, quand je m'assois, en cours de gym aussi.
À cet endroit-là, je ne vois que l'appendicite. Tant qu'elle n'a pas de fièvre, il n'y a pas vraiment d'urgence. Mais il faut lui trouver une place à l'hôpital ou en clinique. Surveillez bien la température. Si la fièvre montait, il faudrait opérer à chaud, et c'est risqué. Pas de cours de gymnastique jusqu'à la fin de la convalescence. Occupez-vous de lui trouver une place pour 8 jours d'hospitalisation, sans retard, et tout ira bien. Gisèle a séché ses larmes. Elle est un peu sonnée. Elle songe à la cousine de Prague, morte au cours de cette opération, pourtant considérée par tout le monde comme très simple. Pierre ne pense plus à sa taloche, mais imagine le coût de 8 jours d'hospitalisation et de l'opération. Depuis leur installation en ville, le budget familial a fondu. Et cet anarchiste ne cotise pas à la sécurité sociale. La télévision s'installe un peu partout. Il a travaillé le sujet. C'est très intéressant. Début juin, Gisèle recevait, dans une chambre personnelle, à la Pergola, la clinique la plus chic. Le chirurgien l'avait félicité en déclarant « Il est très joli ton petit boyau !» en lui déposant le trophée rose bonbon sur sa table de nuit, dans un petit flacon de verre. L'année suivante, l'entrée au lycée mixte qui avait vu sur ses bancs, entre autres, Jean Giraudoux et René Barjavel, sembla enfin concrétiser les espoirs inavoués et même inconscients de Gisèle. Les devoirs de français étaient jugés sur pièces et non sur analyse grammaticale. Et les origines diverses des élèves, venus de tout le département et de bien plus loin encore, présentaient des orthographes variées, dont tout le monde s'accommodait. Il n'y avait pas de dictée au bac. Les contraintes du programme en empêchant l'exercice. Les profs souffraient en soupirant, les élèves soupiraient de soulagement. La classe de seconde moderne fut riche de découvertes. Majorité de garçons dans cette classe. Ni grossiers ni brutaux, timides même, devant le petit bataillon de filles, qui risquait d'être là pour briller en maths et auquel il allait falloir se mesurer. Des filles, tellement filles, dont certaines portaient même des bas, tandis que les garçons venaient juste de troquer leurs culottes courtes pour des jeans, tout nouveau sur le marché. Les profs étaient surtout des hommes et attentifs à l'égalité de traitement pour filles et garçons. Il y avait Mouchodrome, alsacien au nom difficile à prononcer, et à qui son audace à présenter un crâne rasé à la Yul Brynner avait valu ce sobriquet « sur mesure ». Inattendu Mouchodrome, qui, débarquant dans ce trou perdu d'Auvergne, s'apercevait que ses élèves ne connaissaient pas plus leur pays que lui-même, et qui, pour tous, s'employa à y remédier. Cours de sciences naturelles appliquées, en évasion dans le passé et les souterrains de cette petite bourgade si prisée de Louis XI. Minéralogie, architecture, histoire du Moyen-Âge, pour finir par la récente histoire de la résistance des monts d'Auvergne et du Bourbonnais en particulier. Mais cette histoire-là, les jeunes la connaissaient, surtout si, comme Gisèle, ils avaient un de leurs parents au cimetière, où s'alignaient les tombes aux pierres barrées d'un ruban tricolore, marqué « Mort pour la France », daté surtout de 1941, 42, 43, 44 et même 45. Il y a là-bas tout un quartier de maquisards, hommes et femmes, Christiane Menu, Jean Lafort, etc., que les amateurs de malveillance devraient bien visiter pour cesser enfin d'étiqueter comme collabos toute cette population de Vichy et de ses environs qui a pris tant de risques pour sauver tant de gens en danger de mort, juifs ou résistants. Il y avait aussi Sansornier, prof d'histoire géo, l'air un peu nounours, qui accueillait les candidats à ce qui était alors le premier bac dans une salle glaciale, avec une étincelle rigolarde dans l'œil. Il réussissait à faire rire aux larmes et en silence les 35 potaches qui n'auraient manqué pour rien au monde les performances pédagogiques de Sansor, pince sans rire inégalable. Car il ne récoltait jamais de chahut, Sansor. La belle réputation de cet établissement interdisait à ses acteurs la moindre entorse aux bonnes manières scolaires. Ceux qui comprenaient ses astuces, souvent scabreuses, faisaient semblant de n'avoir rien entendu ni compris, et continuaient, cachés derrière le dos du voisin de devant, à hoqueter de rire, silencieusement. Le très sérieux programme de géographie traitait des techniques architecturales, des matériaux utilisés, de ce qu'on appelait peut-être pas encore les pauces, de tout ce qui, finalement, caractérise nos belles provinces et rend chacune reconnaissable à la forme des toits, des clochers, au patchwork des cultures étagées ou s'étirant sur les collines. Sansor avait donc mis au point un plan fixe de son cours, adaptable pour chaque leçon. Excellent moyen mnémotechnique pour rendre toute question de cours inoubliable, qu'il s'agisse de ruralité, d'urbanisme ou d'implantations industrielles. Et sans doute les potages de ces années 60, devenus vieux, font-ils encore les joies des réunions d'anciens en rappelant les interrogations orales de Sansor. « Voyons voir, vite d'eau !» Venez donc nous décrire l'habitat rural en Limousin.
« Je sais pas, monsieur, c'est loin, je le connais pas. »«
C'est bien ce que je vous reproche, vous me copierez la leçon. »
« Voyons donc, mademoiselle Rimbert, vous souvenez-vous de l'habitat à Urbain ?» Ceux qui avaient résisté au sacrifice de Vidot s'étouffèrent carrément devant la mine épouvantée de la jeune fille, la plus distinguée et surtout la plus timide de cette section, qui se demandait pourquoi elle déclenchait pareille réaction avant d'avoir pu articuler un seul mot. Et la malheureuse, muette, était renvoyée à sa place, accompagnée de la moue désolée de Sansor. Il y eut aussi, hélas, Toto le matheux, le sadique, qui ressuscita avec délectation les cauchemars de Gisèle et de tant de brouillés avec les mathématiques.
Ben oui, c'est nous, les cloportes, dictées et on exécute. C'est pour cela qu'on nous traite tels de vulgaires insectes. C'est nous qui allons travailler chaque matin par milliers sur les périphériques bouchées. C'est ça le monde civilisé. On finance les armes nucléaires, puis on
terminale, le rêve de philosophie s'écroula. Le cours tant attendu se limitait à une lecture, à haute voix, par les élèves, du manuel antédiluvien Cuvier. Ce qui permettait au professeur de digérer le monde du jour précédent. Pratique quasi magique, car quand un lecteur ou une lectrice écorchait un mot ou sautait une ligne, le professeur l'alpaguait cruellement. Comment faisait-il pour suivre à la fois le manuel et les articles de Beuve-Méry? Il devait savoir ce fichu Cuvier par cœur. Mais magie ou pas, les élèves étaient trop déçus et se vengeaient comme ils pouvaient. Le sport le plus pratiqué dans ce but était le lancer de parachute. Dispositif créé à base de mouchoirs légers et d'un chewing-gum assez gros et bien gluant, réunissant les quatre coins du mouchoir. Le fond de la classe se prêtait naturellement le mieux à l'opération d'aplafondissage de l'aéronef, si le regard du professeur était bien captivé par le monde. Ainsi, le plafond du fond exhibait les succès des cours de philo. Il y avait aussi la course au petit papier. Le Canard enchaîné de l'époque, en pleine guerre d'Algérie, avait beaucoup de succès, beaucoup plus de succès que le Cuvier. Mais pas dans la forme intégrale, bien sûr. Les potaches découpaient ou recopiaient, pour les plus respectueux du volatile, les phrases perfides et salées de l'album de la comtesse, et les faisaient circuler dans la classe pour ne pas perdre complètement leur temps. Fatalement, un jour, le prof saisit au vol une de ces contrepétries ambulantes. Que croyez-vous qu'il arriva ? Impossible au professeur respecté de se venger administrativement du potache. Nicole ni zéro possible. Alors, attrapant une craie, le prof traduisit en toutes lettres le message canardesque au tableau et en gros. Puis, forfait accompli, il plia cérémonieusement le monde et se lança, rien dans les mains, rien dans les poches, dans un commentaire brillantissime de la page du jour. Spinoza. Ce fut le début de cours de philosophie digne de ce nom. Mais il était bien tard.
Chaque soir devant la télé, la famille est ensorcelée. Affalée sur le canapé, on peut rêver, éveiller. On mate la rubrique « Je nécrophile », vision de missile érectile. Sur fond de commentaires débiles, puis on s'en sommeille tranquille. Et l'obscurité emporte nos espoirs qui avortent. On est des années mortes, nous ne sommes que des cloportes. Nous sommes des cloportes.
Les littéraires des autres sections avaient produit un petit périodique racontant par le menu les faits et gestes de leurs profs. Ceci avec la complicité de l'éditeur de la Gazette bourbonnaise installée à deux pas du collège, place de l'église Saint-Saturnin, devenue gaulienne depuis. Ce petit journal immortalisa pour toutes et tous les collégiens et collégiennes leur jeunesse, leurs efforts et leurs illusions. Avant l'album de la comtesse, les cours de philo servaient aussi de dortoir, derrière les épaules les plus larges des voisins complices, ou de salle d'études, avec les solutions des problèmes de maths du jour, ou autres pensum en retard. Ainsi, Gisèle profita de la réunion de tous ses fins lettrés pour mendier du secours pour les versions latines qu'elle tenait à maîtriser, bien que s'étant initiée en téméraire incomprise cette année-là seulement, rêvant de continuer ensuite en fac. Pour ça, elle potassait le kérou de quatrième, valeur absolue en la matière. Elle tomba sur un os, dont elle fit circuler la copie sur un petit papier en direction des privilégiés qui avaient pu latiniser depuis leur plus jeune âge. Toclé, Quesaco ? Personne ne savait. On lui demanda le contexte. « Ben, c'est une histoire de méga bagarre. Ça canarde dans tous les coins. Il y a Thémis qui se désole, on dirait. »« Thémis ? Qu'est-ce qu'elle fait là, Thémis ?»«
C'est justement ce que je voudrais savoir. »«
Et c'est où, ce carnage ?»« À Salamine. » Et la sage Agnès s'arrache de sa page de cuvillier pour porter enfin secours. Salamine ? La bataille de Salamine ?
C'est pas Thémis, c'est Thémistocle,
le général des armées grecques qui met la pâtée aux Perses.
Ah ? Ben c'est le typo qui a foiré. Thémis, c'est en bout de ligne. Et à la ligne suivante, j'ai cru que Toclé, c'était le verbe, ou adverbe, ou je sais pas, moi. En voilà des manières. On coupe pas les noms propres, il me semble. Surtout ceux des héros.
En terminale, apparut à la rentrée dans le rang des philosophes une blonde jeune fille, grande et très élégante, que personne ne connaissait, mais dont le visage n'était pas tout à fait inconnu à Gisèle. Mais comment mettre un nom dessus ? Pour l'accueillir, dans cet établissement qu'elle connaissait bien depuis 3 ans, Gisèle s'approcha de la belle inconnue, qui se détourna prestement. Sans doute le duffelcoat râpé avait-il épouvanté la bourgeoise, ou le cartable décousu, ou... Pendant l'appel, Gisèle fut attentive au patronyme pour essayer de s'y retrouver et ne fut pas tout à fait déçue, mais presque effrayée de sa découverte.
« Marianne X ?»«
Présente !» répondit la belle, qui n'adressa jamais la parole à Gisèle. Mais le temps ne parut pas long, car quelques mois plus tard, Marianne disparut. On la crut malade, mais au trimestre suivant, elle ne revint pas. Elle ne passa pas son bac, ayant dû faire, en ce printemps 1964, un voyage d'agrément que n'a pas fait sa maman, comme le chantait Anne Sylvestre. Voyage en Suisse ou en Angleterre, sans doute. Gisèle ne se réjouit pas de ce bruit de voyage ni de ce baccalauréat perdu, après déjà des années de retard. Mais elle aurait bien voulu voir la tête de la belle dame qui avait traité la petite Gisèle de 13 ans de fille pervertie.
Nous sommes des clopons. Clopons.
Descendons dans les salles obscures chercher la transe, et quand tu la trouves, elle te prend. La transe.
Tumba. Tumba.
Hey. Ouais.
Tumba. Tumba.
Hey.
Cette année-là, était aussi arrivé un nouvel élève avec un nom comme un trombone. Il disait vous aux filles, et s'installa d'autorité à côté de Gisèle, dont le nom maghrébin en deux parties lui faisait sans doute imaginer une ascendance aristo-exotique digne d'intérêt. Erreur, vicomte. La mère de Gisèle faisait des ménages, et Gisèle donnait en cachette des autorités des leçons de français et d'anglais pour que, dans le pâté de maison bidonville qu'elles avaient rejoint après le divorce, on mange tous les jours. Ses parents, autrefois si unis, n'avaient pas résisté à la disparition du fils unique. Ils avaient déjà perdu leur premier enfant, un petit garçon foudroyé par une méningite, que l'on crut attrapé chez sa gardienne, tandis que Rose était secrétaire dans une petite entreprise de banlieue parisienne. Rose ensuite resta à la maison pour élever les filles qui arrivèrent peu à peu, et Philippe rejoignit la nichée à l'automne 1940. Pierre, installé comme électricien, s'était aussi spécialisé dans la production discrète de postes à galène, des postes émetteurs et aussi des récepteurs pour les maquis auvergnats. Il délirait de bonheur devant ce fils, auquel, penché sur son berceau, ou en le tenant au-dessus de lui à bout de bras, pour lui donner le sens de la perspective, il parlait de radio et de révolution. L'accident de Philippe démolit le couple et ses rêves. Rose se torturait de questions en silence. Pierre ne se pardonnait pas. Sa passion de l'électronique, qui lui avait laissé aller les enfants en vélo à la ville, tandis qu'il s'échinait 12 ou 15 heures par jour sur tous les postes de radio du canton et sur quelques appareils médicaux qu'il mettait au point avec des employés aussi enthousiastes que leur patron. Et le patron, descendu en ville, s'en alla chercher du travail chez les autres, tout comme ses employés. Le vicomte avait un certain succès de société dans cette classe de très sérieux candidats au bac. Lui, qui semblait moyennement motivé par la fin de l'année, racontait des histoires d'Amérique du Sud et osait plaisanter la jeune prof d'anglais. Le vicomte, souvent à ses côtés, Gisèle renonçait à s'attaquer aux mystérieuses murailles construites par Toto autour des mathématiques modernes. Elle s'habituait à compter sur les matières littéraires pour sauver son année. Le vicomte raccompagnait souvent Gisèle à son bidonville. Gisèle présenta Mère Courage. Peu à peu, on découvrit que le vicomte n'était pas tout à fait le riche globe-trotteur qu'on imaginait. Mère Courage, épuisée, dut être hospitalisée, puis admise en maison de repos après une opération délicate, laissant seule Gisèle et sa petite sœur de 11 ans. Avant cela, on fêta Noël à l'hôpital, dans la grande salle commune où apparaissait de temps en temps un grand paravent autour d'un lit. Au lit de Rose se trouvèrent réunis avec Gisèle et la petite, le vicomte et Yvonne, qui nourrissait la famille avec les productions de sa ferme. Avec des leçons de français à 5 francs, Gisèle ne pouvait pas offrir grand-chose. Elle avait vu une montre qu'elle rêvait d'offrir à sa mère, un remplacement tardif de celle qu'elle avait fait tomber dans la fontaine autrefois. Mais elle n'arrivait pas à réunir le prix affiché dans la vitrine du bijoutier de la Grand-Rue. Le vicomte fit le complément, à la grande surprise de Gisèle. Avant de partir se refaire une santé au Pays Basque, Rose devait prendre quelques décisions, organiser son absence. Question. Angoisse. Le vicomte se rapprochait beaucoup de Mère Courage. Il arriva que Gisèle, en allant à l'hôpital, y retrouve le vicomte qui avait manqué les cours. Rose, touchée, le baptisa son premier ministre, tant il était attentif et de bons conseils, dans la mesure où il rassurait cette femme qui redoutait tant d'abandonner sa nichée. Le vicomte la persuada que ses petites ne seraient pas seules. Elles ne furent pas seules. Suite au prochain numéro, dans longtemps. Pour gribouiller tout ça, il en faut du temps. À bientôt pour Contre-Histoire.